Vous écoutez, on lit pour vous.
Les forçats de l'IA. Un texte de Théophile Simon, paru le 28 janvier 2024 dans la presse. D'un bidonville ou d'un cybercafé, des centaines de milliers de travailleurs des pays du Sud entraînent les algorithmes des entreprises de la Silicon Valley en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils vivent souvent dans une grande précarité. Premier texte de deux, une image à la fois, des milliards de fois. Comme chaque soir, le cybercafé du bidonville de Cagayan de Oro, une grande ville du sud des Philippines, est plein à craquer. Avachis devant leur ordinateur, deux adolescents se défoulent sur un jeu vidéo. Derrière eux, trois enfants font défiler les vidéos sur TikTok. Un peu plus loin, une fillette se passionne pour un dessin animé japonais. Par la fenêtre, le clair de lune berce le quartier d'une lumière métallique. La porte du cybercafé s'ouvre soudain dans un craquement. « Allez hop! Tout le monde file au lit! Les adultes doivent travailler !» aboient deux hommes en faisant irruption dans l'antre surchauffé. Après de vaines protestations, les enfants se dispersent comme une volée de moineaux. John B. et John Henry, âgés de 22 et 27 ans, prennent chacun position devant un écran. Citation : Nous n'avons pas assez d'argent pour acheter un ordinateur personnel, alors on vient travailler ici chaque nuit, de 8 heures du soir à 5 heures du matin. Pendant la journée, il y a trop d'enfants, on ne peut pas se concentrer. Fin de citation, explique l'un d'eux d'une voix lasse. Leurs écrans affichent bientôt des photos amateurs regorgeant de nourriture. Un risotto aux asperges servi dans un restaurant occidental, une bûche de Noël immortalisée lors d'un réveillon, un cappuccino posé sur le comptoir d'un café branché, des œufs au plat et des rôtis à la table d'un déjeuner. D'une main experte, John B. et John Henry entourent chaque aliment à l'aide de leur souris. Citation : Notre job consiste à analyser des milliers de photos de nourriture prises à travers le monde. Nous découpons le contour de chaque aliment avant de l'identifier dans un logiciel. En répétant cette tâche des milliers de fois, on apprend à l'intelligence artificielle à reconnaître les objets toute seule. Fin de citation, raconte John Henry. Citation : Cette technologie est déjà intégrée aux iPhones qui sont désormais capables de reconnaître les objets photographiés par leurs propriétaires. Fin de citation, révèle John Henry en cliquant sur une photo d'œufs durs posée à côté de barres de céréales. Les deux informaticiens en herbe répéteront cette tâche une cinquantaine de fois au cours de la nuit pour un salaire d'environ 6 $ canadiens. Citation : C'est moins que le minimum légal et je n'ai aucune protection sociale, mais je n'ai pas le choix. Dans ce coin des Philippines, il y a très peu d'emplois. Fin de citation, raconte John B. Citation : L'autre solution, c'est de vendre de la drogue. Or, je veux un avenir. Fin de citation, acquiesce John Henry, dont l'un des parents vient d'écoper de plusieurs années de prison pour trafic de stupéfiants. Les voitures autonomes. John B. et John Henry ne sont pas les seuls à passer leur nuit à entraîner les algorithmes de l'intelligence artificielle. Au fil des ruelles bordées de maisonnettes en tôle, des dizaines d'autres habitants du quartier effectuent des tâches similaires. D'une minuscule pièce sans fenêtre, les yeux rivés sur un vieil écran, Cheiro, 27 ans, examine quant à lui un nuage de milliers de points disséminés sur un plan en trois dimensions. Juxtaposant l'ensemble avec une photo prise depuis le tableau de bord d'une voiture roulant à San Francisco, il sélectionne certains agglomérats de points à l'aide de sa souris, puis note leurs coordonnées géométriques dans un logiciel. Citation : Chacun de ces points matérialise le rebond du laser projeté par la voiture autonome au moment où elle analyse son environnement. Je dois identifier chaque forme afin d'aider le véhicule à distinguer une autre voiture d'un piéton, un arbre d'un panneau ou un animal d'un bâtiment. Je répète cette tâche environ 12 heures par jour, 7 jours par semaine, souvent la nuit. » Fin de citation, dit Cheiro. Citation. Si je comprends bien, ces données permettront un jour à l'intelligence artificielle de remplacer les conducteurs. Fin de citation, dit-il, pointant vers un coin de la pièce où une paillasse malodorante gît sur une palette de bois. Un logo situé à gauche de son écran trahit l'identité de l'employeur de ces forçats de l'intelligence artificielle, IA, Remo Tasks, une filiale de la jeune pousse américaine Scale AI. Fondée en 2016 à San Francisco par Alexander Wang, un petit génie du MIT alors âgé d'à peine 19 ans, l'entreprise se spécialise dans la fourniture de données aux leaders mondiaux de l'IA. Un filon juteux, lors de sa dernière levée de fonds en 2021, Scale AI a été valorisée à près de 10 milliards de dollars canadiens. L'entreprise compte parmi ses clients Apple, Google, OpenAI, Samsung, Lexus, Hyundai, Amazon ou encore l'armée américaine. Afin d'entraîner leurs algorithmes, champions de la Silicon Valley et autres multinationales appâtées par les promesses de l'IA ont besoin d'immenses quantités de données annotées, c'est-à-dire préalablement déchiffrées et organisées par des humains. L'océan de photos captées par les téléphones portables d'Apple ou de Samsung est ainsi épluché. Le contenu des millions d'heures de vidéos filmées par les voitures autonomes de Google est répertorié. Des millions de documents comptables sont disséqués afin de pouvoir un jour automatiser les services administratifs de milliers d'entreprises. Citation. Alexander Wang dit souvent que l'intelligence artificielle est comme un enfant. À ses débuts, elle a besoin que des adultes lui désignent et lui expliquent le monde avant de devenir autonome. C'est la mission que s'est fixée Scale AI. Fin de citation, raconte Bayani, nom fictif, un ancien cadre de Remo Tasks rencontré à Cagayan de Oro. Vous écoutez Les forçats de l'IA, un texte de Théophile Simon, paru le 28 janvier 2024 dans La Presse. Deuxième texte de deux. C'est de l'exploitation. Remo Tasks a tissé un réseau d'environ 240 000 collaborateurs dans plusieurs pays du Sud, dont une bonne partie aux Philippines, pour effectuer les milliards de micro-tâches requises pour entraîner l'intelligence artificielle. Tous sont réunis sur une plateforme en ligne permettant de répartir les données à annoter aux quatre coins du monde. Chacun de ces taskers, surnom donné par Remo Tasks, est rémunéré de quelques cents par tâche et voit son pécule versé par PayPal en dehors de son système bancaire local. Aucun de ses sous-traitants n'est formellement salarié par la jeune pousse californienne qui peut ainsi s'affranchir des législations nationales. Certains travailleurs l'accusent même de les avoir floués. Citation. Mon mari et moi avons travaillé pour Remo Tasks pendant près d'un an après que l'épidémie de COVID nous a fait perdre nos emplois. Fin de citation, se souvient Judy May Ravanera, 26 ans, une habitante d'un bidonville de Cagayan de Oro donnant sur la mer. Citation. Un beau jour, nos salaires n'ont plus été versés. Nous nous sommes dit que ça devait être un simple problème technique et nous avons continué à travailler. Mais au bout de 6 mois, nous n'avions toujours rien. Comme l'entreprise est établie à l'étranger, nous n'avons jamais pu nous plaindre à la justice. Fin de citation. Remo Tasks compte des dizaines de salariés à Cagayan de Oro. L'entreprise a discrètement monté dans la ville une impressionnante logistique. Tout un immeuble y a été rempli de centaines de postes de travail. Nuit et jour, suivant des horaires de 8 heures, des cohortes de jeunes défilent pour être formées à l'annotation de données par des cadres de Remo Tasks. Au bout de quelques mois, ils sont renvoyés chez eux pour travailler en ligne. D'autres, comme Judy May Ravanera, sont uniquement formés en ligne. Citation. Au moins 10 000 personnes ont été formées rien qu'à Cagayan de Oro, qui constitue la tête de pont de Remo Tasks aux Philippines. Sur papier, Ces gens sont des sous-traitants indépendants, mais ils ont un supérieur hiérarchique, des horaires de bureau et même des créneaux pour la pause déjeuner. C'est de l'exploitation. » Fin de citation, témoigne Bayani, qui a lui-même formé des milliers de ces forçats de l'IA. Contacté par la presse, RemoTasks affirme mener régulièrement des études pour s'assurer que la rémunération de ses travailleurs respecte le minimum légal. Toujours selon l'entreprise, les travailleurs philippins travailleraient en moyenne 10 heures par semaine sur la plateforme. RemoTasks reconnaît enfin louer des bureaux pour ses informaticiens, mais affirme ne pas imposer à ces derniers des horaires fixes ni la moindre supervision hiérarchique. Interrogé sur les pratiques de RemoTasks, le responsable local de l'inspection du travail, Athénéus Vassallo, suspecte un recours massif à du travail dissimulé et promet d'ouvrir une enquête. En cas de problème, RemoTasks ne manquera pas de solution de rechange. L'entreprise a récemment ouvert des bureaux au Nigeria et au Venezuela, où la main-d'œuvre est encore moins chère qu'aux Philippines. C'était Les forçats de l'IA, un texte de Théophile Simon, paru le 28 janvier 2024 dans la presse.
Le fantôme toxique qui sommeille dans les dunes des îles de la Madeleine. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 7 février 2024 dans Le Devoir. Près de 30 ans après le début des opérations de récupération pilotées par le gouvernement fédéral, une infime portion des 200 000 sacs de sable et de mazout contaminés au BPC enfouis dans les dunes des îles de la Madeleine ont été retrouvés, démontrent les données obtenues par Le Devoir. Le maire de la municipalité, Antonin Valiquette, n'hésite d'ailleurs pas à parler d'un fantôme qui revient périodiquement rappeler aux insulaires les impacts du naufrage de l'Irving Whale en 1970. Les Madelinots connaissent bien cette histoire. En septembre 1970, une barge contenant plus de 4200 tonnes de mazout lourd et au moins 7 500 kg de biphényl polychloré, BPC, coule à environ 60 mètres de profondeur en plein cœur du golfe du Saint-Laurent. Le déversement de centaines de tonnes de mazout provoqué par le naufrage atteint les côtes de l'île du Prince-Édouard, mais aussi et surtout les îles de la Madeleine. Les plages sont souillées par des plaques de ce mazout visqueux, principalement entre la pointe de l'Est et l'étang du Nord. À ce moment, on ignore que ce mazout est contaminé au BPC. Cette information sera révélée par Irving uniquement en 1995, au moment où on discute du renflouement de la barge qui a laissé fuir du mazout pendant des années dans le golfe, avant d'être sorti des eaux en 1996. Des sacs et des dunes. Lorsque les plaques de mazout s'échouent sur les magnifiques plages des îles de la Madeleine, à la fin de septembre 1970, l'urgence est au nettoyage avec des moyens de fortune. La solution? Ramasser le mazout collé au sable et le mettre dans des sacs qui sont enfouis sur place, dans les dunes situées au sommet des plages. Combien de sacs ont ainsi été enfouis? On l'ignore. Ce nombre demeure inconnu à ce jour, admet Pêche et Océan Canada, MPO, en réponse aux questions du Devoir. Selon les évaluations disponibles, il y en aurait de 150 000 à 200 000, mais impossible de confirmer un chiffre précis. Non seulement on ne sait pas combien de ces sacs remplis de substances toxiques se retrouvent dans les dunes de cet archipel prisé des touristes, mais on ignore aussi où ils ont été enfouis, déplore en entrevue le maire des îles de la Madeleine, Antonin Valiquette. Même si on voulait enlever tous les sacs, ce ne serait pas possible. On ne sait pas où ils sont, combien il y en a et quels seraient les impacts pour les dunes. Ils n'ont pas été cartographiés à l'époque. Nous sommes donc impuissants. On ne peut pas régler le problème rapidement. Chose certaine, ajoute M. Valiquette, c'est un souvenir douloureux qui revient périodiquement. Ces sacs refont en effet surface de temps à autre à la faveur des aléas côtiers et de l'érosion qui frappent plus que jamais les îles en raison des impacts de la crise climatique. Chaque fois, un protocole de récupération se met en branle en partenariat avec la garde côtière canadienne. Mais il faut être prudent parce que le retrait des sacs et la recherche d'autres sacs peuvent contribuer à déstabiliser les dunes, qui sont importantes pour la protection contre l'érosion des côtes, explique Antonin Valiquette. Selon les données fournies au devoir par le MPO, une infime partie des sacs enfouis ont jusqu'ici été récupérés. De 1996 à aujourd'hui, la garde côtière canadienne a fait 59 interventions qui ont permis de récupérer un total de 9076 sacs, précise-t-on par courriel. Cela signifie qu'en près de 30 ans d'opérations de récupération, entre 4,5% et 6% des sacs auraient été récupérés. Risque. Puisque des dizaines de milliers de sacs devraient demeurer introuvables pendant encore plusieurs décennies, est-ce qu'ils représentent des risques pour l'environnement et la santé des Madelinots? Le MPO se veut rassurant en citant la direction de la santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le contenu des sacs ne présente pas de risque évident pour la santé humaine, puisque le contenu s'y trouve sous forme solide et que la population n'y est pas directement exposée. Même son de cloche du côté du maire qui rappelle que des échantillons sont aussi prélevés systématiquement autour des sites où on retrouve des sacs afin de vérifier la migration potentielle de la contamination. Antonin Valiquette n'en souligne pas moins que ce fantôme toxique qui réapparaît sporadiquement est un cruel rappel des risques associés aux énergies fossiles. On se souvient trop bien des risques de la filière des hydrocarbures en matière d'environnement et de protection du territoire, affirme-t-il. Plusieurs Madelinots se sont d'ailleurs mobilisés pour s'opposer au projet d'exploration gazière piloté dans l'archipel par l'entreprise Gastem au début des années 2010, mais aussi au projet pétrolier dans le secteur de Old Harry au nord-est de l'archipel. Dans les deux cas, les projets ont finalement été abandonnés avant l'imposition d'une législation qui interdit l'exploration au Québec. Une marée noire aux îles de la Madeleine serait catastrophique. Notre économie repose sur le tourisme, la pêche commerciale et la beauté de nos paysages. Ce serait aussi grave pour les Madelinots qui tiennent à leur territoire. Prenons donc les décisions qui s'imposent en amont pour éviter cela, résume M. Valiquette. De nombreux pétroliers circulent chaque année dans le Golfe. C'était le fantôme toxique qui sommeille dans les dunes des îles de la Madeleine, un texte d'Alexandre Shields, paru le 7 février 2024 dans Le Devoir.
Le virage vert des centres de la petite enfance, un texte de Sarah Champagne, paru le 29 janvier 2024 dans La Presse. Ce qui frappe avant même de franchir les portes du centre de la petite enfance, CPE, c'est la quantité de gros bacs de recyclage. Les bleus. La ville de Laval a fait exception, elle a consenti le double. Ensuite, il y a un bac pour récupérer les piles, un autre pour les masques et les gants, puis l'autre afin que les parents puissent déposer des cartons et emballages qui serviront à bricoler. Bienvenue au CPE L'Arche de Noé, rue Jacques, dans le quartier Fabreville, un univers où les idées vertes sont dans tous les recoins. Le programme durable et écologique auprès des enfants est tel qu'il a obtenu une distinction internationale dans le milieu des services de garde, OMEP World, Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire. Il n'est pas à 10 heures le matin, un froid mordant règne à l'extérieur, mais déjà les enfants se préparent à une sortie. Ici, l'éducation par la nature est le mot d'ordre. Ça fait partie de la politique environnementale interne. La directrice générale de l'établissement de 80 enfants d'âge préscolaire, Mélanie Bélanger, explique que des combinaisons de pluie ont été achetées pour permettre aux enfants de jouer dehors beau temps, mauvais temps. Il y a les activités traditionnelles hivernales, notamment la raquette, et celles d'été, comme le jardinage, les deux mains dans la terre. Les enfants mangent les légumes qu'ils ont semés, arrosés, vus pousser et qu'ils ont cueillis dans leur potager. Ils sont appelés à participer au programme de compostage, à la récupération de l'eau de pluie. Lors du passage de la presse, un gratin de thon sauce béchamel, carottes et chou-fleur mijotait pour le dîner. Ce menu du CPE est pesco-végétarien. Il y a du poisson au menu une fois par semaine. Les œufs sont permis. Les produits sont locaux dans la mesure du possible. Au lieu des pellicules de plastique, des couvercles réutilisables servent à recouvrir les restants. Sans oublier les bouteilles d'eau réutilisables, les napperons et les serviettes en tissu au lieu du rugueux papier brun. Le virage vert a commencé en 2018 dans ce centre subventionné, explique la directrice Mélanie Bélanger. Cette dernière ne s'en cache pas. C'est exigeant, c'est essoufflant. Il y a la paperasse à remplir et c'est coûteux. Un comité de développement durable a été mis sur pied avec la collaboration du personnel et des parents. Au bout du couloir, deux éducatrices animent des activités dans un local où il n'y a pas de jouets en plastique. Il y a des morceaux de bois, des cartons, des cocottes de sapin dans une boîte en carton. Au début, il a fallu encourager les enfants, mais le local pique leur curiosité. Avec les cocottes, ils peuvent créer toutes sortes de jouets. Ça laisse place à l'imagination, à la création, indique Laurence, l'une des éducatrices. Karine Marina est directrice adjointe. Elle est le bras droit de la directrice. Elle pointe une tirelire en bois confectionnée à la main. Elle permet aux parents de déposer des contributions volontaires. Des campagnes de financement servent à financer les mesures vertes, notamment l'achat de loupes pour observer les insectes, dit-elle. C'est du travail, mais on voit le résultat chez les enfants. Par exemple, un parent m'a déjà raconté que son enfant l'a arrêté alors qu'il s'apprêtait à jeter une pelure de banane aux poubelles. « Ça va au compost », a-t-il rappelé à sa mère, relate Karine Marina. Au Québec, l'organisme Environnement Jeunesse chapeaute CPE Durable, un programme reconnu par le ministère de la Famille. Celui-ci vise à conscientiser et outiller les prochaines générations à prendre soin de la planète. Environ 85 services de garde en sont membres dans 14 régions de la province. Deux ont décroché l'excellence. l'Arche de Noé de Laval, et le CPE, la Petite Patrie, situé dans le quartier Rosemont à Montréal. On remarque qu'il y a un engouement dans les services de garde, du dynamisme, de la volonté. Plus un CPE avance dans le programme, plus les critères sont élevés, notamment avec la mise en place d'une politique environnementale, d'actions écologiques en continu, précise Stéphanie Pellerin, coordonnatrice des programmes d'accompagnement à Environnement Jeunesse. Maxime Côté, directeur général du CPE La Petite Patrie, est fier de raconter que son centre a décroché le niveau d'excellence 3 années de suite. Il explique que les mesures se sont mises en place une à une depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, le CPE d'une capacité de 160 enfants fabrique même son savon. Les employés sont des ambassadeurs, dit-il. Au-delà du virage vert, il y a un impact positif sur le personnel, les éducatrices, estime M. Côté. Selon le directeur, l'essentiel est de rassembler les gens autour du développement durable. Chez nous, il n'y a pas eu d'épuisement professionnel depuis 4 ans. On a des mesures d'inclusion. Notre stationnement a été adapté pour les gens à mobilité réduite. Nos employés ont des tarifs préférentiels pour utiliser le transport collectif. Les gens veulent travailler chez nous. D'ailleurs, je reçois des candidatures fréquemment. D'autres actions au CPE L'Arche de Noé. Formation aux parents et enfants en lien avec l'environnement. Vente de bric-à-brac annuel. Journée sans électricité. Sortie zéro déchet. Collecte des habits d'hiver pour le relais communautaire de Laval. Collecte de denrées pour Moisson Laval. Troc de jouets entre les familles. Un projet d'aérateur d'eau sur les robinets est en cours. C'était le virage vert des centres de la petite enfance, un texte de Sarah Champagne, paru le 29 janvier 2024 dans la presse.